Bonjour à tous, c'est une joie d'être parmi vous pour partager ensemble cette parole ô combien précieuse pour chacune de nos vies. André Gide, un philosophe protestant, d'après les échos de tendance libérale, a dit une vérité que j'apprécie tout particulièrement au sujet des évangiles. Il a dit « L'importance avec les évangiles, ce n'est pas de les interpréter de telle ou telle manière, c'est de les mettre en pratique. » Et je crois qu'on peut étendre cette citation à toute la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier qu'il nous faut lire, écouter, méditer et surtout mettre en pratique dans notre vie. Et pour cela, nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Et j'ai tout particulièrement apprécié cette introduction à la prière que Guy a faite. Elle est le reflet de, je pense, chacune de nos vies. Nous avons à rechercher la face de Dieu, à rechercher ce qu'il a à nous dire. Et chaque jour, je pense que le Seigneur nous nourrit parce qu'il est un Dieu fidèle. Rappelons-nous ce passage qui nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais méditer avec vous trois passages des Écritures, enfin, ces trois références que j'ai prises dans les Écritures. Une première lecture dans le livre de Jérémie au chapitre 17. Jérémie chapitre 17, et nous lisons à partir du verset 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Une deuxième lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Jusque-là, la lecture, et une dernière lecture dans l'Évangile de Luc, chapitre 6. Évangile de Luc, chapitre 6, nous lisons à partir du verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Jusque-là, les lectures qui serviront de base pour la méditation de ce matin. Dans ma charge pastorale, il m'est donné de côtoyer des chrétiens protestants, de différents horizons, qui ont une différente lecture de la parole de Dieu. Pour certains, d'ailleurs, ce n'est pas parole de Dieu. Mais j'ai remarqué une même difficulté, que ce soit chez les chrétiens de tendance évangélique, que ce soit chez les chrétiens de tendance réformée, on va dire, que ce soit chez les chrétiens de tendance libérale. Et le problème, c'est de choisir. Et qui parlait, et vous savez, Dieu est bon, et je disais tout à l'heure à Victor que je ne savais pas ce que j'allais partager avec vous, mais que j'allais attendre ce que le Seigneur me mettrait à cœur à travers l'introduction qu'allait faire Guy. Et il m'a mis à cœur ce texte, cette méditation que je partage avec vous. C'est que la vie, frères et sœurs, est une succession de choix. Des choix, des préférences, de direction que nous donnons à notre vie dans tel ou tel domaine. Le choix nous engage, les choix nous conduisent et par conséquence, nous héritons de la conséquence de ces choix. Des choix que nous avons posés librement, sans contrainte. Des choix que nous prenons volontairement. Il y a un dicton que vous connaissez tous, ce que l'on sème, l'on moissonne. Et ce matin, les textes nous invitent à poser un choix fondamental qui entraîne une réalité pratique dans notre vie de tous les jours, dans notre fort intérieur, et qui donc remonte à la surface dans notre vie de tous les jours. Ce choix, c'est croire ou ne pas croire. Je dis bien croire ou ne pas croire. Je suis toujours étonné dans mes entretiens avec des frères et des sœurs d'horizons différents qu'il m'est donné de croiser et d'avoir avec eux ce qu'on appelle un entretien pastoral, ou si vous préférez, et je préfère chez nous, on appelle ça la cure d'âme, eh bien, je suis toujours étonné que le gros des problèmes vient d'un manque de foi. Croire ou ne pas croire. Et la question qui nous est posée ce matin, c'est croyons-nous dans la souveraineté de Dieu? Aujourd'hui, au XXIe siècle, croyons-nous que le Dieu de la Bible est notre Dieu, que le Dieu qui agissait puissamment dans les Écritures agit puissamment aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Alors vous me direz, si on est chrétien, on croit, on serait insensé de venir à l'Église et de ne pas croire. Et pourtant, frères et sœurs, c'est monnaie courante. Et si nous examinons notre vie, combien de fois avons-nous manqué de foi? Ce n'est pas étonnant que dans les évangiles, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit « gens de peu de foi ». Ou « si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, la foi déplace les montagnes ». Et dans les Écritures, il nous est rappelé quelque chose de fondamental à laquelle nous devrions prêter tous attention. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et dans Habacuc, Guy a pris ce verset 1 de Habacuc 2, mais un peu plus loin, au verset 4, il est mis « Mon juste vivra par la foi ». Et dans Romains, il est repris au chapitre 1er ce même texte, « Mon juste, le juste, vivra par la foi ». Que signifie vivre par la foi. C'est croire. C'est poser le choix de croire que le Dieu que nous avons connu en Jésus-Christ, ce Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, ce Dieu comme nous l'avons exprimé dans nos prières, et j'ai apprécié la prière de Victor qui disait « Tu as pris, alors que nous n'étions encore rien, tu as décidé de te charger de nos fautes. » Dieu qui est amour, grâce et miséricorde, s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé de nos failles. Et des failles, nous en avons tous encore aujourd'hui. Et nous en aurons encore demain. Mais nous avons un Dieu qui est au-delà de nos conceptions. Dans les Écritures, il est mis que Dieu va au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous imaginons, en amour, en compassion, en grâce et en miséricorde. Et c'est en ce Dieu-là que nous sommes invités à poser notre confiance, au fait, à croire. Jérémie, chapitre 17, nous donne des indices très clairs. Un chrétien, c'est celui qui se confie en Dieu, qui place sa foi, qui décide de croire dans ce Dieu tout-puissant, dans ce Dieu souverain, dans ce Dieu qui dit et la chose arrive, qui veille sur ses promesses, sur sa parole, pour l'accomplir promptement, rapidement. Le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est celui qui met sa foi en Dieu et non en l'homme et en ses capacités. Et voyez-vous, frères et sœurs, le gros problème qui nous empêche de croire, c'est que nous croyons trop en nous. Ce que nous devrions donner à Dieu, notre confiance, notre dépendance de lui, eh bien, au fait, on le place en nous. Parce qu'on se croit capable de résoudre problèmes et difficultés dans notre vie. Les Écritures nous rappellent que l'homme se croyant sage est tombé dans la folie. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu pour être en relation, en dépendance de Dieu. Et il nous faut, frères et sœurs, saisir cette réalité dans notre vie. L'homme sage, le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est celui qui s'appuie totalement sur Dieu. Et cela en opposition avec celui qui met sa confiance dans ses capacités, quelles qu'elles soient. Et mettre sa foi en Dieu se voit dans la vie de tous les jours, et spécialement, particulièrement dans les moments de chaleur, d'aridité de la vie. Et je pense que personne d'entre nous ne peut dire « Moi, je n'ai jamais connu des problèmes, des difficultés. » Que ce soit dans un domaine ou dans un autre, il nous arrive tous, parce que Dieu est juste, de traverser des difficultés de la vie. Et c'est dans ces difficultés, dans ces moments d'aridité, dans ces moments de chaleur intense. Les Écritures ont été écrites en grosse partie dans un contexte bien particulier. Les écrivains vivaient certains contextes, et notamment en Extrême-Orient, les moments d'aridité, de forte chaleur, où sans eau, eh bien on se dessèche. Un jour, j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit... Il était à la mort et il m'a dit, après avoir connu le printemps, il faut aussi connaître les moments d'hiver. Il me disait cela pour répondre à la question que je lui avais posée, comment va ta santé? Il avait un cancer en stade avancé et il m'a dit, tu sais, Dieu est là, qu'il soit béni. Et je sais, par expérience personnelle, qu'il est fidèle. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que dans notre vie, nous restions debout? C'est tout simplement le souvenir des grâces que Dieu nous a faites à travers les moments difficiles que nous avons vécus, qui dans un domaine, qui dans un autre. C'est le souvenir de toutes ces choses qui nous donnent de rester debout et au contraire, de grandir davantage dans notre dépendance de Dieu, dans notre confiance en lui. Et ce pasteur me disait, c'est parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre, à maintes reprises dans ma vie de tous les jours, dans mon ministère, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, d'où l'importance de la communion fraternelle, que j'ai pu traverser les difficultés que je traverse, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, mon Dieu est vivant, et que je peux m'appuyer constamment sur lui. Oui, le chrétien se voit, et il se voit spécialement, je le disais, dans les moments difficiles. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12, « Avoir appris à être content dans l'état où il se trouve. » Et il poursuit en disant qu'il sait vivre la situation qu'il traverse. Et la question, c'est comment et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il dira au verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout par celui qui me fortifie. D'où l'importance, frères et sœurs, de cheminer avec Dieu et de poser ce choix ô combien fondamental de croire. Lorsque j'étais gamin, j'ai fait de la physique. Et la première règle de physique que j'ai appris, c'est celle-ci. À une force, un mouvement. À une force exercée sur un objet, une réaction d'un mouvement. Et voyez-vous, elle est valable dans la foi. Lorsque je pose le choix de croire en Dieu et en toutes ses promesses, je vois dans ma vie la réaction, la conséquence, la suite de ma foi. Et il y a dans les Écritures maintes reprises, et j'aimerais conclure avec l'histoire de la résurrection de Lazare. Je vous rappelle, je vous fais un résumé rapide. Jésus arrive, déjà au début, il a dit « Ce qui se passe, c'est pour la gloire de Dieu », c'est-à-dire, ce sera un témoignage qui montrera la grandeur, la puissance de Dieu. Et puis il arrive dans le village et Marthe vient à sa rencontre. Et elle lui dit « Seigneur, si tu avais été là, ça ne se serait pas passé. » Et Jésus lui dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La suite, vous la connaissez, il se retrouve devant le tombeau. Et Jésus arrive, dit, « Ôtez la pierre. » Et Marthe dit, « Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort et il sent déjà. » Et Jésus lui rappelle tout simplement, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Eh bien, frères et sœurs, cette parole, elle s'adresse à nous aussi. Nous pouvons connaître dans notre vie des temps terribles, des temps difficiles, mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme. En lui, nous rappelle l'apôtre Jacques, il n'y a aucune onde de variation, il reste toujours le même. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Mais l'homme change. L'homme change. Et lorsque Jésus dit, mais lors de ce retour, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur terre? Je pense que ce n'est pas anodin s'il dit cela. Mais c'est pour nous rappeler aussi que dans la société d'aujourd'hui où nous sommes confrontés à différentes pensées philosophiques, à différentes façons d'entrevoir la foi, avons-nous la foi? Est-ce que pour nous, cette parole d'Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Ou cette parole de Habacuc 2:4, le juste vivra par la foi, elle est toujours d'actualité dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous rappelle Jésus. C'est cela aussi, croire. Savoir que c'est en Dieu que nous avons la vie abondante et pleine, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est le vivre au plus profond de nous-mêmes, et alors, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Que le Seigneur puisse nous donner à chacun de réaliser cela et de le vivre humblement, parce que nous avons à être humbles. Nous avons à être humbles. Et moi, je suis heureux de vivre la communion fraternelle. Elle est fondamentale. Pourquoi? Eh bien, parce que vos témoignages sont pour moi une preuve de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et cela fortifie ma foi. Et on s'encourage mutuellement les uns les autres en nous appuyant sur la réalité de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tout un chacun et qu'il nous donne de marcher par la foi, de choisir de croire, de poser ce choix qui est fondamental. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le Dieu de notre salut. Nous venons de le dire et nous le croyons, sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu nous appelles à croire en toi, à entendre ce que tu nous dis, à le comprendre, à le mettre en pratique. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de foi. Augmente notre foi. Donne-nous d'être enracinés dans ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et elle nous dit l'immensité du bénéfice que nous pouvons avoir pour notre vie personnelle du fait de nous appuyer sur toi, de te croire, de croire en toutes tes promesses, en tout ce que nous dit ta parole. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Merci de bénir la paroisse de Bligny. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun. Que ta bénédiction coule à flot, Seigneur, sur Bligny. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.